Claude Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, troisième partie, chapitre 2, troisième sous-chapitre. Le principe du déterminisme exige que les faits soient comparativement déterminés. Nous venons de voir que notre raison nous oblige à repousser des faits qui ont une apparence indéterminée et nous porte à les critiquer afin de leur trouver un sens rationnel avant de les introduire dans le raisonnement expérimental. Mais comme la critique, ainsi que nous l'avons dit, repose à la fois sur la raison et sur le doute philosophique, il en résulte qu'il ne suffit pas qu'un fait expérimental se présente avec une apparence simple et logique pour que nous l'admettions. Mais nous devons encore douter et voir par une contre-expérience si cette apparence rationnelle n'est pas trompeuse. Ce précepte est de rigueur absolue, surtout dans les sciences médicales qui, à raison de leur complexité, recèlent davantage de causes d'erreur. J'ai donné ailleurs le caractère expérimental de la contre-épreuve, je n'y reviendrai pas. Je veux seulement faire remarquer ici que lors même qu'un fait paraît logique, c'est-à-dire rationnel, cela ne saurait jamais suffire pour nous dispenser de faire la contre-épreuve ou la contre-expérience, de sorte que je considérerais ce précepte comme une sorte de consigne qu'il faut suivre aveuglément, même dans les cas qui paraissent les plus clairs et les plus rationnels. Je vais citer deux exemples qui montreront la nécessité d'exécuter toujours et quand même cette consigne de l'expérience comparative. Premier exemple. J'ai expliqué précédemment comment je fus autrefois conduit à étudier le rôle du sucre dans la nutrition et à rechercher le mécanisme de la destruction de ce principe alimentaire dans l'organisme. Il fallait, pour résoudre la question, rechercher le sucre dans le sang et le poursuivre dans les vaisseaux intestinaux qu'il avait absorbés jusqu'à ce qu'on pût constater le lieu de sa disparition. Pour réaliser mon expérience, je donnais à un chien une soupe au lait sucré. Puis je sacrifiais l'animal en digestion et je trouvais que le sang des vaisseaux sus-hépatiques, qui représente le sang total des organes intestinaux et du foie, renfermait du sucre. Il était tout naturel et, comme on dit, logique, de penser que ce sucre trouvé dans les veines sus-hépatiques était celui que j'avais donné à l'animal dans sa soupe. Je suis certain même que plus d'un expérimentateur s'en serait tenu là et aurait considéré comme superflu, sinon comme ridicule, de faire une expérience comparative. Cependant, je fis l'expérience comparative parce que j'étais convaincu, par principe, de sa nécessité absolue, ce qui veut dire que je suis convaincu qu'en physiologie, il faut toujours douter, même dans les cas où le doute semble le moins permis. Cependant, je dois ajouter qu'ici l'expérience comparative était encore commandée par cette autre circonstance que j'employais pour déceler le sucre, la réduction des sels de cuivre dans la potasse. C'est en effet là un caractère empirique du sucre qui pouvait être donné par des substances encore inconnues de l'économie. Mais je le répète, même sans cela, il eût fallu faire l'expérience comparative comme une consigne expérimentale, car ce cas même prouve qu'on ne saurait jamais prévoir quelle peut en être l'importance. Je pris donc, par comparaison avec le chien à la soupe sucrée, un autre chien auquel je donnais de la viande à manger, en ayant soin qu'il n'entrât d'ailleurs aucune matière sucrée ou amidonnée dans son alimentation. Puis je sacrifiais cet animal pendant la digestion et j'examinais comparativement le sang de ses veines sus-hépatiques. Mais mon étonnement fut grand quand je constatais que ce sang contenait également du sucre chez l'animal qui n'en avait pas mangé. On voit donc qu'ici l'expérience comparative m'a conduit à la découverte de la présence constante du sucre dans le sang des veines sus-hépatiques des animaux, quelle que soit leur alimentation. On conçoit qu'alors j'abandonnais toutes mes hypothèses sur la destruction du sucre pour suivre ce fait nouveau et inattendu. Je mis d'abord son existence hors de doute par des expériences répétées. Et je constatais que chez les animaux à jeun, le sucre existait aussi dans le sang. Tel fut le début de mes recherches sur la glycogénie animale. Elles eurent pour origine, ainsi qu'on le voit, une expérience comparative faite dans un cas où l'on aurait pu s'en croire dispensé. Mais s'il y a des avantages attachés à l'expérience comparative, il y a nécessairement aussi des inconvénients à ne pas les pratiquer. C'est ce que prouve l'exemple suivant. Deuxième exemple. Magendy fit autrefois des recherches sur les usages du liquide céphalorachidien et il fut amené à conclure que la soustraction du liquide céphalorachidien entraîne, chez les animaux, une sorte de titubation et un désordre caractéristique dans les mouvements. En effet, si après avoir mis à découvert la membrane occipito-athloïdienne, on la perce pour faire écouler le liquide céphalorachidien, on remarque que l'animal est pris de désordres moteurs spéciaux. Rien ne semblait plus naturel et plus simple que d'attribuer cette influence sur les mouvements à la soustraction du liquide céphalorachidien. Cependant, c'était une erreur, et Magendy m'a raconté comment un autre expérimentateur fut amené par hasard à le trouver. Cet expérimentateur fut interrompu dans son expérience au moment où, ayant coupé les muscles de la nuque, il venait de mettre la membrane occipito-athloïdienne à nu, mais sans l'avoir encore percée pour faire évacuer le liquide céphalorachidien. Or, l'expérimentateur vit, en revenant continuer son expérience, que cette simple opération préliminaire avait produit la même titubation, quoique le liquide céphalorachidien n'eût pas été soustrait. On avait donc attribué à la soustraction du liquide céphalorachidien ce qui n'était que le fait de la section des muscles de la nuque. Évidemment, l'expérience comparative eût résolu la difficulté. Il aurait fallu, dans ce cas, mettre, ainsi que nous l'avons dit, deux animaux dans les mêmes conditions, moins une. C'est-à-dire mettre la membrane occipito-athloïdienne à nu chez deux animaux, et ne la piquer pour faire écouler le liquide que chez l'un d'eux. Alors on aurait pu juger par comparaison et préciser ainsi la part exacte de la soustraction du liquide céphalorachidien dans les désordres de la myotilité. Je pourrais citer un grand nombre d'erreurs arrivées à des expérimentateurs habiles pour avoir négligé le précepte de l'expérience comparative. Seulement, comme il est souvent difficile, ainsi que l'ont prouvé les exemples que j'ai cités, de savoir d'avance si l'expérience comparative sera nécessaire ou non, je répète qu'il faut, pour éviter tout embarras, admettre l'expérience comparative comme une véritable consigne devant être exécutée, même quand elle est inutile, afin de ne pas en manquer quand elle est nécessaire. L'expérience comparative aura lieu tantôt sur deux animaux, comme nous l'avons dit dans le cas précédent, tantôt, pour être plus exact, elle devra porter sur deux organes similaires d'un même animal. C'est ainsi que, voulant autrefois juger de l'influence de certaines substances sur la production de la matière glycogène dans le foie, je n'ai jamais pu trouver deux animaux comparables sous ce rapport, même en les mettant dans des conditions alimentaires exactement semblables, c'est-à-dire à jeun, pendant le même nombre de jours. Les animaux, suivant leur âge, leur sexe, leur embonpoint, etc., supportent plus ou moins l'abstinence et détruisent plus ou moins de matière glycogène, de sorte que je n'étais jamais sûre que les différences trouvées fussent le résultat de la différence d'alimentation. Pour enlever cette cause d'erreur, je fus obligée de faire l'expérience complète sur le même animal en lui enlevant préalablement un morceau de foie, avant l'injection alimentaire et un autre après. De même, quand il s'agit aussi de voir l'influence de la contraction sur la respiration musculaire chez la grenouille, il est nécessaire de comparer les deux membres d'un même animal, parce que dans ce cas, deux grenouilles ne sont pas toujours comparables entre elles.